Sous l'effigie musicale de la chanteuse Björk, Jean Dev a pris à bras-le-corps les avant-gardes du XXe siècle, 1980-1999. Il nous présente ici, avec Georges Didier-Huberman pour témoin, un historien de l'art bien connu, le projet des immatériaux de Jean-François Lyotard d'abord, exposé en 1985 à Paris. Mais reprend aussi Benjamin, Deleuze, qui fait rire sur Freud, Lacan, dont la voix donne le corps, et Pierre Guyotat, Giorgio De Chirico, Jean-Michel Alberola, Jean-Luc Godard, la transe avant-garde et l'art allemand, etc. Bref, jusqu'au postmodernisme, l'art vidéo et l'art underground, un panorama mémorable qui retrace la recherche des créateurs et les mouvements artistiques plus ou moins polémiques ou scandaleux du siècle passé déjà, et dont voici cette nuit le 10e et dernier chapitre.
Depuis aujourd'hui en RDA. Elle permet à tout citoyen de se rendre en RFA à Berlin-Ouest et partout à l'étranger sans motif particulier et sans raison familiale. Depuis ce matin, les services compétents délivrent les visas nécessaires pour plusieurs voyages pour une durée de 6 mois. Cela se fait sans complication et à bref délai. Nombreux sont déjà les voyageurs et les visiteurs au passage frontière de la capitale de la RDA avec Berlin-Ouest. Le tout se passe dans un climat courtois, sans entrave et sans aucune difficulté. Le porte-parole du gouvernement, Wolfgang Mayer, avait annoncé hier soir que la nouvelle réglementation concerne aussi les sorties de citoyens de la RDA, désireux de se fixer définitivement à l'étranger.
Le temps silence comme un bretzel.
Voilà. C'est joli, hein.
Parce que le bretzel ne s'élance pas, c'est un élancement étouffé.
C'est tour à tour désespéré.
Contrarié.
Non, mais le temps s'élance comme un bretzel, c'est une citation. C'est un enfant qui a prononcé ça dans un jardin.
Oh,
et c'est Walter Benjamin a recopié ça.
C'est joli.
Et moi, je fais un commentaire critique. Je ne suis pas d'accord avec l'enfant. Je pense que le temps, en fait, s'élance comme un strudel. C'est toute ma théorie. C'est ma fameuse théorie du strudel.
Ben, le temps du strudel est un temps de feuilleté.
Oui, mais strudel, non, je dis strudel parce que quand Benjamin parle de l'origine, il dit que c'est un strudel, c'est-à-dire un tourbillon dans le fleuve.
Il faut témoigner de l'imprésentable. Telle était l'intention de Jean-François Lyotard avec sa grande exposition conçue pour le Centre Georges Pompidou en 1985, Les Immatériaux. Ce titre est venu tout seul, déclarait alors le philosophe. J'ai pensé qu'au fond, ce qui est intéressant, ce sont ces nouvelles technologies qui sont des substituts d'opérations mentales et non plus d'opérations physiques, comme jusqu'à présent. Jean-François Lyotard montrait là une direction essentielle, comme du reste Gilles Deleuze.
L'homo loup, c'est donc un monsieur qui a été analysé par Freud, puis qui a fait un rêve, où il voyait des loups, de sa fenêtre ouverte, il voyait des loups, 6 ou 7. Il précise 6 ou 7 loups perchés sur un arbre. Bon, voilà un énoncé. L'homme au loup déclare « J'ai rêvé de 6 ou 7 loups perchés sur un arbre. » Il sent que c'est important ce qu'il dit. Il a un rapport très spécial avec les loups. Il sait même qu'il a des histoires d'anus très compliquées. Il a des histoires de mâchoires très compliquées. Et il sait que c'est l'histoire d'anus et de mâchoires. Sont pas indépendantes de ses rapports rêveurs avec les loups. Voilà donc, il est en train de dire à Freud quelque chose d'important. Monsieur Freud, j'ai rêvé de 6 ou 7 loups. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire que n'importe quel enfant sait ce que c'est qu'un loup. On peut dire que Kipling sait ce que c'est qu'un loup. Et on peut dire que tout le monde sait, par exemple, que les loups vont par meute. Et que dire meute de loup, c'est quelque chose qui peut être défini rationnellement, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui, dans les formations de l'inconscient, une meute de loups, tiens, ça peut être quelque chose d'important, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Il faudra revenir là-dessus. De toute manière, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un loup ni une meute de loups, et qui ne sait pas que les loups vont par meute. C'est Freud. Et pourquoi est-ce que Freud ne le sait pas? Parce que Freud, il sait une chose. Il a un chien, le chien du psychanalyste. Il a un gros chien, puis un chien qui ressemble à un loup, hein, et il connaît ça, ça il connaît, le chien. Alors, ça se passe comment? Dans la tête de Freud, qui écoute ce monsieur couché sur le divan lui disant, 6 ou 7 loups. Freud n'entend pas, il n'entend pas. Je prends cet exemple, mais n'importe quel autre exemple je pourrais... j'en ai 1000, 10 000. Non, pardon. J'en ai plusieurs. J'ai une meute d'exemples. Alors voilà. Freud, il n'entend pas. 6 ou 7, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas pour une raison très simple. On verra laquelle. De toute manière, la multiplicité, la meute, c'est l'ennemi. Donc il ne peut pas entendre puisqu'il s'agit de purger les loups de leur multiplicité. Il faut que les loups dégorgent leur propre meute. Il y a une méthode célèbre pour ça, ce qu'on appelle l'association libre. Il permet bien des coups de pouce parce qu'après tout... Alors Freud, il dit, tiens, 6 ou 7 loups, c'est pas normal ça quand même. Bon, mais après tout, là, il sollicite un peu, et l'homme au loup dit, mais oui, quand j'étais petit, j'ai lu un conte qui s'appelait Le loup et les 7 chevreaux. Vous voyez l'opération, c'est terrible. Voilà que les loups sont en train de perdre leur multiplicité au profit de chevreaux qui n'ont rien à faire avec l'histoire. Absolument rien. Et dès lors, il n'y a plus 6 ou 7 loups, il n'y a plus qu'un loup. 7 loups jôtent 6 chevreaux, reste un loup. Et le loup, c'est quoi? Eh bien, on y est, c'est le chien du psychanalyste, à savoir, c'est ton papa. Là, je suis presque honteux parce que vous avez l'air de croire que j'exagère la démarche de Freud.
Je
Georges Didier Huberman.
Oui.
Qu'est-ce qu'un historien de l'art aujourd'hui? Ou plus exactement, quels sont les instruments de travail d'un historien de l'art?
Vous me posez une question difficile parce qu'il y a, un certain nombre de, collègues qui, estiment que je n'en suis pas un, justement. Alors, c'est, moi, je me sens tout à fait un historien de l'art, hein, c'est pas la question. Ouais. Quel instrument?
Pour travailler, de quoi avez-vous besoin?
Concrètement? Pour travailler concrètement, j'ai besoin de... En ce moment, si vous voulez, je peux vous dire en ce moment. J'ai besoin de, beaucoup de livres. Donc j'ai besoin de la bibliothèque Warburg en particulier. Et puis j'ai besoin de voir des œuvres. Et puis j'ai besoin de lire beaucoup, mais de lire...
Alors je vais vous aider.
Oui, je ne comprends pas bien, oui.
Avez-vous besoin de Sigmund Freud? Avez-vous besoin de Jacques Lacan?
Ben évidemment.
Avez-vous besoin de, Hegel?
Évidemment.
Ou de Marx?
Oui, évidemment, évidemment.
Avez-vous besoin de l'hystérie?
Là, sur l'hystérie, je peux être plus précis en
historien
ce moment.
Historien de l'art, ouais, voudrait dire quelqu'un qui regarde l'art, qui regarde la peinture, qui a un travail du regard. Or, chez vous, il ne s'agit pas seulement du regard. Vous ne faites pas que regarder. Vous... essayez de savoir de quoi est fait ce regard, ou de quoi est fait l'image que vous êtes en train de regarder, ce qu'il y a sous l'image. Je pense aux stigmates du Christ ou d'un saint, que vous identifiez par exemple aux, fleurs des champs.
D'accord. Alors d'abord, je prends au vol votre expression « aller sous l'image ». La plupart des historiens de l'art ont le sentiment, notamment dans la discipline qu'on appelle l'iconologie ou l'iconographie, d'aller sous l'image, d'aller au-delà de l'image. Par exemple, une image est définie par le cadre qui l'enferme. Il y a beaucoup d'historiens de l'art qui ont très envie de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà du cadre ou derrière ce meuble, ou, etc. Ou sous l'image, c'est-à-dire le texte source qui en serait la clé. Et alors moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense qu'il faut être à même l'image. L'image, c'est une, c'est pas une surface. C'est beaucoup plus complexe. Une image, c'est de la substance, c'est du temps, c'est de la matière, c'est un remous. C'est un remous, l'image.
Jacques Lacan.
L'analyste. Reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question. N'est-ce pas ? La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, n'est-ce pas, les tendances de vie, par exemple, ou les pulsions de mort. Ça ne peut en aucun cas y être identifié. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées, il a employé ce terme, les pensées même qui le guident, n'est-ce pas ? Il insiste sur ce que ce sont des pensées, et quand on lit, on s'aperçoit, n'est-ce pas, que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci, qu'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, n'est-ce pas, qui n'appartiennent au champ du langage. La façon dont Freud opère part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, le lapsus, le mot d'esprit. S'il met en avant ces éléments-là, il faut lire ses ouvrages de départ, qui sont la science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, ou justement ce qu'il a écrit sur le mot d'esprit, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas un seul de ces éléments qu'il ne prenne comme articulé par le sujet. Et c'est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation, n'est-ce pas ? La nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas ? Et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas, que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient, le réel même tout court, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants.
Sur des photos d'un corpus photographique qui venait de la Salpêtrière. Il est bien évident qu'à ce moment-là, travailler là-dessus, c'était ne pas faire de l'histoire de l'art. Ces images ne sont pas des images d'art, c'est de l'illustration scientifique, si vous voulez. Mais enfin, il est bien sûr que ça m'intéressait à cause d'un certain rapport avec une sorte de mise en place de modèles liés à la question psychique, le psychique, le corporel. On ne peut pas faire de l'histoire de l'art, on ne peut pas regarder une image sans se poser des questions sur l'anthropomorphisme, sur la chair, sur le corps, toutes ces choses. On ne peut pas non plus regarder les images, et encore moins faire de l'histoire des images, sans avoir un point de vue sur la mémoire, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le refoulement, par exemple. Donc, on ne peut pas faire de l'histoire de l'art sans avoir un point de vue sur le psychique. Je vais vous prendre un exemple très précis. Freud observe une hystérique en crise. Parce que, naturellement, la psychanalyse est beaucoup moins intéressante pour l'historien de l'art quand elle parle de peintre. Ça, vous vous en doutez bien. La psychanalyse est intéressante pour l'historien de l'art quand elle parle de son matériau lui-même, de son objet, c'est-à-dire le symptôme. Alors, Freud observe un symptôme. C'est une hystérique qui se débat de façon extrêmement violente à terre. C'est une phase dans la crise hystérique telle que Charcot l'avait définie. C'est une phase que Charcot appelait les mouvements illogiques. Ça veut bien dire que pour lui, c'était le moment de la crise où il ne comprenait rien. Alors lui, Freud, il regarde ce moment-là, ce moment non figuratif, ce moment de chaos absolu. Et là, il donne une leçon majeure de regard. ça veut dire que dans ce corps en désordre, il voit une ligne de symétrie. Il voit que cette femme se débat dans la mesure où la moitié droite de son corps, c'est une femme violée, en train d'être violée. La moitié gauche de son corps, c'est l'homme qui est en train de la violer. C'est-à-dire que dans un seul corps, il y a une lutte terrible. Et que cette lutte provoque donc un effet d'incompréhensibilité quand on voit ce corps se débattre. On ne comprend pas ce que ça figure. Il suffit d'avoir ce point de vue, au fond, extrêmement formel, de voir qu'il y a une ligne de symétrie qui partage ce corps, mais naturellement, cette ligne de symétrie elle-même est en mouvement très violent, et de voir donc qu'il y a ce que Freud appelle à ce moment-là une simultanéité contradictoire. Hein ? Il y a simultanéité contradictoire. Il y a intensité plastique, comme il dit, c'est-à-dire un effet d'image, intensité de l'image. Et il dit, c'est cela qui rend cette figure incompréhensible pour nous. Et en plus, c'est cela qui permet au symptôme d'assurer ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois manifester le fantasme inconscient et en même temps le laisser à l'état de dissimulation. À mon avis, là, presque tout est dit. C'est-à-dire, je dis presque tout est dit parce que on a à la fois la position d'une intensité de l'image, de sa complexité, de sa contradiction interne et de sa faculté de dissimulation. Il est extraordinaire de constater que Goethe, parlant du Laocoon, disait pratiquement les mêmes phrases. Et il est remarquable de voir que lorsque Warburg s'intéresse à un certain nombre d'images, il en parle dans les mêmes termes. Warburg, en 1895, c'est-à-dire bien avant Artaud, a fait le voyage d'Artaud, bien sûr. Si vous regardez les textes d'Artaud sur la culture mexicaine, vous voyez que l'enjeu d'Artaud se rapproche beaucoup de celui de Warburg, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que culture veut dire, d'un point de vue, je dirais, anthropologique. Alors, ce qui fait la grande force du travail de Warburg, mais enfin, c'est complexe parce que Warburg est aussi fort qu'il est faible. Warburg est quelqu'un qui est dominé par des monstres, des démons. C'est un fou, Warburg, d'une certaine façon. C'est ce que la discipline ne lui pardonne pas.
Est-ce que ce n'est pas aussi un homme qui est envahi par, disons, le génie, et aussi le risque du transfert d'une culture à l'autre, de mettre en place tout un système de correspondance.
Oui. Alors, je finis sur l'idée précédente, qui est que Warburg, en fait, ce que j'appelle la folie, qui s'est concrétisée dans un épisode psychotique précis, qui a duré plusieurs années, etc., c'est au niveau, disons, de son épistémologie, c'est son impossibilité à clore une interprétation. Ce qui fait qu'il n'a jamais écrit un seul livre, au fond. Et qu'il a écrit des articles.
Beaucoup d'articles.
Une quarantaine. C'est pas beaucoup. Hein.
Ses œuvres complètes. Les archives à Londres ou londoniennes sont considérables.
Alors c'est ça. D'un côté, 40 articles publiés qui tiennent tous en deux petits volumes. D'un autre côté, une œuvre gigantesque. Mais gigantesque. C'est beaucoup plus important que les posthumes de Nietzsche, par exemple. Beaucoup plus important. Une œuvre gigantesque et importante, c'est-à-dire des manuscrits, des brouillons, des esquisses, des essais, mais qui touchent directement aux problèmes fondamentaux, des écrits philosophiques, des écrits méthodologiques. Donc c'est cela qu'il faut essayer d'explorer, en fait. Vous parlez de transfert, vous savez, tous les grands penseurs sont dangereux. Il y a un danger. Nietzsche, par exemple, mais Warburg tout aussi bien. Le danger chez Warburg, c'est d'avoir une lecture, je dirais, jungienne. Ou, vous voyez ce que je veux dire ? C'est très facile d'avoir ce type d'interprétation. Donc, c'est d'une lecture délicate. Dès qu'on s'approche de problèmes cruciaux, eh bien, comme le mot l'indique, on se trouve à la croisée
et
des chemins.
Le danger chez Nietzsche, il n'était pas du côté de Jung, qui n'existait pas encore. Et quel serait le Jung de Nietzsche ?
Le Jung de Nietzsche, c'est sa sœur. Évidemment. C'est le volume qu'elle a publié sur la volonté de puissance. C'est l'interprétation de la volonté de puissance dans des termes qui ont fini par susciter l'adhésion des nazis. C'est très simple. Hansel and Gretel are alive and well, and they're living in Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a fuss, Binderfield. And they sit around at night now, drinking schnapps and gin. And she says, Hansel, you're really bringing me down.
Pierre Guyotat.
Les soldats casqués, jambes ouvertes, foules, muscles retenus, les nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violet. Les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sur les tôles mitraillées des GMC. Le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine. Au col Fercousse, une section du RIMA traverse la piste. Les soldats sautent hors des camions. Ceux du RIMA se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex, d'épines, dénudent le haut de leur corps ombragé par le garde-boue. Les femmes bercent les bébés contre leurs seins. Le mouvement de bercer remue, renforcé par la sueur de l'incendie, les parfums dont leurs haillons, leurs poils, leur chair sont imprégnés. Huile, girofle, henné, beurre, indigo, soufre d'antimoine. Au bas du Fercousse, sur les porons chargés de cèdres calcinés, orge, blé, ruchet, thon, buvette, école, gâte douce, figuier, mechta, muret, tapissé d'écoulements de cervelle, verger rubescent, palmier dilaté par le feu, éclate. Fleurs, pollen, épis, brins, papier, étoffe maculée de lait, de merde, de sang, écorce, plume, soulevée, ondule, rejetée de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu de terre. Les soldats accroupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de pleurs séchées contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés. Creusant leurs joues, salivent sur le bois peint, ceux des camions descendus dans un guet sec, coupent des lauriers roses, le lait des tiges se mêle sur les lames de leurs couteaux, au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière de Nix. Les soldats taillent, arrachent les plans, les déracinent avec leurs souilles écloutées. D'autres shootent, déhanchés. Excréments de chameaux, grenades, charognes, d'aigles. Ceux du RIMA escaladent les marchepieds des camions, se jettent sur les femmes, tout armées, leur sexe surtendu et éperonne, les lambeaux violets que les femmes resserrent au creux de leurs cuisses. Le soldat, sa poitrine écrasant le bébé accolé au sein, écarte les cheveux que la femme a répandus sur ses yeux, caresse le front de la femme avec ses doigts poudrés de poussière d'onyx. L'orgasme fait jaillir de sa bouche un jet de salive qui mouille le crâne beurré du bébé.
Fin de l'URSS. Apparition de la vache folle et du bébé éprouvette. Création par clonage. Essor de la réalité virtuelle. Début d'Internet. Et 1998, l'année des premiers essais de maïs transgénique. La création d'aujourd'hui confirme plus que jamais cette observation. Jamais plus rien sans transférer l'inconscient. Les moyens sont nombreux, infinis. Texte, cinéma, poésie, images, livres, peintures, photographies, romans, voix, ordinateurs, CD, CD-ROM, cinéma, vidéo, dessin, théâtre. Tout ce qui correspond au génie, par exemple, d'un artiste comme James Lee Byers ou encore au talent de Valère Novarina.
Le public demande une nouvelle pénétration, le public demande une nouvelle partie d'action. Les rideaux se lèvent et s'abaissent d'une manière mathématique. La scène représente l'usine Kuhlmann. Entre un mort. Le mort. Je veux voir de l'eau. Tout le monde rentre. Les hommes d'action vont autour du mort pour le oindre. L'homme de mort hurle que c'est pas l'hostie, mais son nez. Achille. Il hurle que c'est pas son nez, mais son gaz. L'homme de bronze. L'homme prie toujours pour de l'or, l'urine excrémentielle. Tout le monde sort, sauf le mort. Entre un homme qui vieillit à vue d'œil. Il sort, entre le docteur Lodon. Il pousse le mort. Le mort. Le monde entre en fusion. Le monde entre en confusion. Docteur Lodon, récitez la liste des verbes qui sont. Le mort, les verbes sont. Liste de la liste des verbes qui sont. Verbe en nut, verbe en bouif, 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 verbe en nut. Verbe en bouif, verbe en nut, verbe en bouif, verbe en nut, verbe en bouif, verbe en nut.
Un artiste comme Gerhard Richter, donc peintre et photographe, dit assez souvent « montrer pour ne pas montrer ». Est-ce que ce n'est pas un peu le problème de tous les artistes d'aujourd'hui qui nous environnent, qui nous accompagnent ou que nous accompagnons?
Pourquoi
des gens comme Lucian Freud.
Pourquoi vous appelez ça un problème?
C'est un paradoxe. Montrer pour ne pas montrer.
C'est un paradoxe d'une extrême antiquité. On pourrait mettre la plupart des œuvres antiques sous ce paradoxe.
Est-ce que l'avant-garde, justement, montre pour ne pas montrer?
Et c'est quoi l'avant-garde? Vous me permettez de vous poser une question?
C'est le coup de poing nécessaire par rapport à la génération précédente.
Ah.
Puisque c'est quand même l'avant-garde met en place un système de rébellion ou de révolte qui permet de nier le père.
D'accord. Alors, partons de votre définition. Je l'accepte tout à fait. Nier le père, je prends note.
Est-ce que je peux aller plus loin?
Je vous en prie.
Je vous posais cette question, montrer pour ne pas montrer, un peu par rapport au travail, la démarche de Antaille, qui, avec un système de plis, cache la peinture.
Oui.
Il faut la déployer.
pour la redécouvrir.
Oui. Alors, d'un côté, votre référence à Antaï me permet de dire que, en ce qui concerne ce peintre, il y a une sorte de spécificité absolue de son travail dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a une façon à lui de montrer pour ne pas montrer, comme vous dites, ou comme Richter dit. C'est que dans ce système de plis et de dépliage, Antaï produit des empreintes, puisque la peinture est sur elle-même. La toile étant en contact avec elle-même, dès lors qu'on passe de la couleur, ça adhère. Ça... Alors il produit des empreintes et en même temps, il produit ce qui, normalement, pour un philosophe, je parle d'un philosophe précis qui serait par exemple Simondon ou même Deleuze, il produit ce qui, pour un philosophe, est la contradiction absolue. C'est-à-dire qu'en même temps qu'une empreinte, il produit une modulation. C'est-à-dire qu'il fait en même temps ce que fait quelqu'un quand il fait l'empreinte d'un pied, c'est-à-dire une chose en plâtre, purement duplicative, mécanique, sans intervention du sujet, et donc que l'on dit souvent froide et morte. Et puis en même temps, il fait de la modulation, il produit une peinture qui module autant qu'une aquarelle de Cézanne. Alors faire ensemble une empreinte et une modulation, ça c'est extraordinaire, ça c'est parfaitement spécifique, c'est Antaï. C'est ce que lui seul, à ma connaissance, fait comme cela.
Giorgio de Chirico.
Au premier temps, j'avais fréquenté ce surréaliste qui était alors très aimable, mais il commençait à s'agacer quand ils virent que j'avais des relations avec des marchands, que je faisais une peinture qui n'était pas exactement celle qu'ils appelaient surréaliste et qu'ils avaient achetée naturellement. Alors, ils commencèrent à me boycotter. Et je me souviens que quand je fis la première exposition chez Léonce Rosenberg, eux qui avaient une galerie dans la rue Jacques Callot, organiser tout de suite une exposition des tableaux que j'avais fait avant, que appelés surréalistes et qu'ils avaient acheté naturellement. Et dans la vitrine de cette galerie, j'avais organisé une espèce de parodie des tableaux qui étaient exposés chez Rosenberg. Alors ils avaient acheté des petits chevaux de caoutchouc, ces chevaux qu'on a pour amuser les enfants. Et puis, ils avaient mis avec un peu de cailloux et de sable un morceau de papier bleu derrière qui était la mer. Puis des petits temples, puis des meubles, je ne sais pas. Seulement, ça leur a mal tourné parce que ça a fait de la publicité pour l'exposition de Rosenberg. Et les autres, ça les a portés au comble de la rage.
Il me semble que la façon courante de penser ces problèmes d'avant-garde et ces problèmes d'art au XXe siècle, qui, comme vous le savez, suscite énormément de polémiques, c'est une pensée qui se base sur un modèle de temps, au fond, qui est le plus idéaliste et le plus traditionnel qui soit. C'est un modèle de temps où, notamment, on pense qu'on peut tuer ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas, par exemple, chez Rosalind Krauss, on trouve souvent l'expression « it's over ». Modernism, it's over. mais ça, ça n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Hein. On pense qu'on en a fini avec cette question. Puisque je citais Rosalind Krauss, on pourrait dire qu'il y a une sorte de polarité aujourd'hui, grosso modo, entre une position comme celle de Rosalind Krauss et une position, je dirais, comme celle de Jean Clair. Tous les deux pratiquement le même mois de la même année, ont publié l'une, Rosalind Krauss, le fameux texte sur Notes on the Index, le fameux texte sur l'index, et l'autre, Jean Clair, ce qui est un de ses meilleurs travaux d'ailleurs, sur du chant et la photographie. Les deux textes, significativement, se basent sur la proposition fameuse de Walter Benjamin dans l'œuvre d'art, etc., etc., à l'ère de sa reproductibilité technique, selon laquelle l'aura est morte, il n'y a plus d'origine, etc. C'est cette commune interprétation, avec donc les conséquences opposées qu'elles ont, hein, l'une disant il n'y a plus d'origine, plus d'originalité, tant mieux, Derrida, etc. L'autre disant il n'y a plus d'origine, quel malheur, haine de Derrida. Le schéma, quoi, grosso modo. C'est la base commune qui ne va pas. Ça ne va pas d'abord parce que c'est une mauvaise lecture de Benjamin. Benjamin n'a jamais dit que Laura était morte. Benjamin a parlé du déclin de Laura. Et Benjamin n'a cessé, ici et là, d'évoquer la survivance de Laura. Benjamin disait, à la suite de Warburg, que le phénomène fondamental, nodal de l'historicité, c'est la question de la survivance. Il le dit dans le livre des passages, et ce faisant, il répète, grosso modo, ce que toute l'œuvre de Warburg essayait de dire. Donc, il ne faut pas parler de la mort de Laura, il faut parler du déclin de Laura et de sa survivance éventuelle. Donc, déjà, nous avons là un modèle de temps qui n'est plus continu et qui n'est plus non plus un modèle où des choses meurent. Nous avons dès lors un modèle où des choses passent en dessous, mais demeurent indestructibles. Ça, c'est le modèle de l'inconscient. L'indestructibilité de la mémoire, c'est la théorie freudienne de la mémoire en tant que mémoire inconsciente. Nous n'avons plus de souvenirs de choses. Souvenir et mémoire s'opposent. Dès lors qu'on a de la mémoire de quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas le souvenir à disposition. Ce qui bouleverse tout, notre conception du psychique comme notre conception de l'histoire, c'est ce que Warburg de son côté, Freud de son côté, ont énoncé sur la mémoire. La mémoire est inconsciente. C'est énorme comme hypothèse. Alors, quand on imagine que quelque chose est mort, c'est qu'en fait on n'arrive pas à imaginer que quelque chose est indestructible et dans les dessous et peut faire retour comme un symptôme. C'est ça la survivance.
Il venait de résumer la querelle des postmodernes.
Oui, bien sûr. Rapidement. Hein.
Jean-Michel Alberola.
Mais sinon, bon, sur la présence du texte dans les images, quoi, c'est, ça, je ne sais pas, c'est peut-être pour... soit pour en dire plus, soit pour dire le contraire de ce qui est dans l'image. Quoi. J'aime bien cette, la contradiction que peut amener un mot par rapport à ce que représente une figure ou un geste ou quelque chose comme ça.
Enfin, il y a eu longtemps chez vous le problème de la signature.
Mais ça, c'est fini, ça.
Oui, mais c'est fini, mais on peut quand même en parler. Le peintre dit ou fait.
Dit, fait, trouve. J'ai trouvé quelque chose à vous dire, je vais le faire en peignant. J'ai trouvé quelque chose à faire, je vais le dire en peignant. J'ai quelque chose à peindre, je vais le faire en disant.
C'est une belle idée pour déplacer la signature. Que le peintre dise ou fasse ou trouve.
Oui, mais c'est-à-dire que toutes les questions que vous me posez, c'est je me dis toujours, je viens après du chant, après tout ça, c'est sans arrêt comme ça, quoi. Il y a un très beau texte de Jean-Claude Liebenstein sur une signature du Caravage qui m'avait beaucoup marqué, donc ça commence là, quoi. La signature, elle se perd, elle s'en va. Toroni, quand il fait ses empreintes, il signe aussi. C'est la grande question du XXe siècle, quoi, où il y a des... C'est la prééminence de l'ego, quoi, qui apparaît, quoi.
Enfin, vous avez quand même le sens de l'écriture, le sens des mots. Par exemple, la dernière exposition, vous l'avez intitulée « Les événements, les situations et les sentiments ». Je me souviens aussi d'un très beau titre, violent, qui était « Je vous dois la méchanceté en peinture ».
Mais la méchanceté en peinture, c'est-à-dire ce que j'essaie peut-être de faire, et même avec les étudiants à l'école, c'est que j'essaie de démystifier un peu cette espèce de voie royale de la peinture, quoi, en disant qu'il faut peindre, il faut que il y ait quelque chose, il faut amener du drame, il faut c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est toutes ces choses qui me pèsent de plus en plus, quoi. C'est là. Alors il faut enlever l'ego parce que sinon on va pas s'en sortir, mais ça c'est vrai. Je vous dois la méchanceté en peinture, c'est-à-dire que bon, au lieu de dire comme enfin de toute façon Cézanne c'est quelqu'un de méchant aussi. Mais quand il dit « Je vous dois la vérité en peinture », c'est extrêmement violent aussi. Je crois que c'est aussi violent que « Je vous dois la méchanceté en peinture bon. ». Je trouve ça « Je vous dois la méchanceté en peinture », je trouve ça assez beau comme phrase. Hein, parce qu'on ne sait pas très bien quelle méchanceté. Hein. C'est exactement la même chose quand je dis à RLH d'or, la phrase elle tient. Mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que je veux aérer, qu'est-ce que l'âge d'or... Qu'est-ce que font ces deux propositions ensemble?
Retenons le cas de Jean-Luc Godard. Est-ce qu'il y a survivance chez Jean-Luc Godard ou est-ce qu'il y a deuil? Et je pense par exemple à la publication des 4 volumes des histoires du cinéma chez Gallimard.
J'ai senti dans ces livres une très forte volonté d'œuvres littéraires. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de rapports à Malraux en particulier. Bon. Cela dit, il y a quelque chose de fascinant hein, dans ce travail. C'est que précisément, s'il y a deuil, comme vous le dites, il y a montage. Et dès lors qu'il y a montage, il y a mise en mouvement. Et dès lors qu'il y a mise en mouvement, il y a, je dirais, anachronisme, c'est-à-dire manipulation de temps hétérogène. Et dès lors qu'il y a manipulation de temps hétérogène, il y a une œuvre future qui se fabrique et qui est absolument fascinante.
Le montage qu'on retrouve aussi comme souci chez Abi-Larrebourg.
Alors, l'histoire chez Benjamin. Benjamin est historien, bien sûr. L'histoire chez Benjamin, l'histoire chez Warburg, ce sont des histoires produites par montage et non pas des chroniques ou des romans familiaux d'un art comme la peinture. Ça procède par montage, ça veut dire que, par exemple, lorsque Warburg, sur la question du portrait florentin, fait émerger dans la modernité du XVe siècle, vous savez bien que les gens, à la fin du XVe siècle, s'intitulaient eux-mêmes des modernes, hein, quelque chose qui est romain. Alors ça, on s'y attend un peu, puisque la Renaissance est un retour de l'art classique, bon d'accord, romain, mais un romain bien spécial, un romain qui n'est pas le romain des bustes de marbre, mais des masques funéraires, enfin des masques généalogiques, ce qu'on appelait précisément des images, des imagines. Il fait émerger du romain, mais il fait émerger de l'étrusque, c'est-à-dire la terre cuite. Et puis il fait émerger du médiéval, c'est-à-dire les ex-voto et l'activité artisanale autour des cultes d'images, etc. Bref, au bout d'un moment, on s'aperçoit que l'objet qui est devant nos yeux est un montage de temps hétérogène. Au même moment, au moment où Warburg finit par élaborer ce mnémosyne, hein, cet atlas qui est donc un montage d'images qui sont empruntées à des temps très différents. Benjamin commence le livre des passages, qui est un montage de temps et de citations hétérogènes, formant savoir. Il y a un nouveau savoir qui se produit, ce qu'il appelait lui-même une Traumdeutung, hein, une interprétation des rêves. Si vous traitez l'histoire comme une interprétation des rêves, fatalement, vous êtes plus dans l'ordre de la mémoire que dans l'ordre de la succession des événements. Et si vous êtes dans la mémoire, vous êtes dans le montage psychique ou concret de temps hétérogène. À la même époque, le grand maître du montage, Eisenstein, est en plein dans son travail sur, je ne sais pas, la ligne générale, par exemple. Et il me semble que, pour revenir à Godard, il y a quelque chose qui se joue dans cet ordre-là, c'est-à-dire de penser que le montage, mon beau souci, si je me souviens bien, n'est pas seulement une procédure cinématographique spécifique, mais est quelque chose qui peut produire de la pensée et du savoir. Ça, c'est une grande leçon.
Mais montage, non pas au niveau du film, mais au niveau du livre, dans le cas de Jean-Luc Godard.
Oui, mais c'est très intéressant, parce qu'il rejoue aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et que je mets tout à fait en relation avec ce que je viens de vous dire, à savoir les montages surréalistes, les revues surréalistes, documents. Bataille. Et cette chose extraordinaire qui est que monter...
Vous pourriez dire aussi situationniste.
Oui, tout à fait. Monter des images et donc des temporalités hétérogènes. Parce que fait Panofsky, par exemple? Quand vous ouvrez un livre d'iconologie, naturellement, il y a des illustrations. Donc, il y a un montage au niveau de la mise en page. Hein. Mais très souvent, un livre d'iconographie ou un livre thématique cherche à monter des ressemblances. Alors, vous avez toutes les annonciations ensemble, vous avez, voyez. Ce qui se passe chez Warburg ou chez Eisenstein ou chez Bataille ou chez Godard, c'est qu'on monte des différences. C'est tout à fait le contraire. Et c'est dans ce choc des différences que nous avons d'un côté une impression que c'est entre guillemets surréaliste, c'est-à-dire on se dit, bon, le type, il laisse libre cours à son imagination. Donc on dit ça de façon un petit peu méprisante quand on est du côté académique. Monter des différences, c'est bon. Mais en même temps, si on regarde de plus près, ce montage des différences produit un savoir qui, en effet, se base sur l'activité de l'imagination, c'est-à-dire la manipulation des images, avec cette définition magnifique que je ne saurais pas citer textuellement, mais qui est une définition baudelairienne de l'imagination, citée à l'envi par Benjamin, qui est que l'imagination n'est en rien une sorte de choix subjectif qui n'engage que la propre personne de celui qui... Non, pas du tout. L'imagination, c'est la production d'un savoir, de la structure cachée des choses lorsqu'on met l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire lorsqu'on monte des affinités électives qui n'étaient pas visibles au premier regard. C'est ça, l'imagination.
Attends.
La puissance de Babylone.
Zachto?
La puissance de Babylone.
Zachto?
Une usine de rêve. Histoire du cinéma. Histoire du cinéma. Actualité de l'histoire. Histoire des actualités. Histoire du cinéma.
L'archipel du Goulag.
Capitalisti, Angli, Americhi, Franci.
L'île au trésor, les 500 millions de la Bégum. Qui ne mène nulle part. Thank you. zéro.
Ce qui a passé par le cinéma et en a conservé la marque ne peut plus entrer ailleurs.
Que le métier que j'ai fait à présent
ne peut plus entrer ailleurs.
Me repugne.
Une usine de rêve.
De tes rêves. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire.
Une usine de rêve.
Les avant-gardes du XXe siècle, 1980-1999. Une émission de Jean Dève avec Georges Didi Huberman et la participation de Philippe De Wolf de la RTBF, Jean-Pierre Denis de Radio-Canada, Isabelle Ruff, Annick Chouin de la Radio Suisse Romande. Coordination Myriam Daquin, Archive INA, Emmanuel Pige, recherche sonore, Martine Voisin. Réalisation, Michel Kreis, Romain Lenoir, Claude Giovannetti.
Avec la collaboration de la communauté des radios publiques de langue française, c'était une émission diffusée la première fois le 18 août 2000.